Une expertise complète pour votre santé visuelle comme pour son éclat. Chez IAM, vous n'avez plus à choisir. Nous sommes la seule clinique au Québec à réunir les soins oculaires spécialisés, les montures de créateurs et la médico-esthétique sous un même toit. De votre examen de la vue de pointe à nos traitements innovants pour le rajeunissement du regard, notre approche est centrée sur vous. Une expertise humaine, avant-gardiste et technologique. IAM, tout pour votre regard, un seul endroit. Prenez rendez-vous sur eye-am.ca.
Connaissez-vous le marché Terre et Mer d'alimentation première à Sainte-Foy? Découvrez-y plus de 260 protéines locales de qualité supérieure. Viande et poissons sous vide et surgelés, nos experts vous attendent sur place pour vous conseiller. Rendez-vous au 2828 chemin des Quatre Bourgeois. Chez Bouffe et compagnie, profitez de notre menu estival avec produits prêts pour vos grillades sur le barbecue. Authentique et gourmand depuis plus de 10 ans. Bouffeetcompagnie.com.
La meilleure équipe parlée à Québec.
Québec.
Est à Boulevard 102.1.
Are you alive?
102.1.
Salut, c'est Marceau,
Jeff Fortin
et Max Larouche.
Catherine Bachand, Antonin Iacarini
et Mathias Surcotte.
Salut, c'est Denis Gravel,
Véronique Bergeron
et Audrey Pinchot.
Nous sommes
Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parler en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Quelle histoire qu'on vous raconte ce soir dans le podcast de Marceau le soir? C'est l'histoire d'un jeune alpiniste, un gars de 23 ans qui est devenu le plus jeune Québécois à avoir atteint le sommet du Mont Everest dans des conditions extrêmes qui auraient peut-être même pu lui coûter la vie et des doigts de pied. On a le plaisir de l'avoir avec nous. Son nom, c'est Xavier Ladouceur. Salut, Xavier!
Comment ça va?
Ah, je me sens un peu petit comparativement à toi qui a gravi l'Everest. Là. C'est exceptionnel ce que tu as réalisé. Je te félicite. Quel beau défi. Mais ça va bien, somme toute. Là. C'était ta question. Ça va super bien. ton retour s'est fait à quelle date précisément, Xavier?
Donc, je suis parti pour aller grimper l'Everest le 7 avril. Ça a été un périple de 7 semaines. Je suis revenu la semaine dernière, mercredi dernier, le 27 mai. Donc, un petit peu plus que 50 jours parti à l'étranger. Je suis de retour depuis une semaine, puis j'en profite pour prendre le temps avec les personnes qui m'ont manqué durant tout ce temps. J'ai passé du temps à mon chalet. Donc, je suis super content d'être de retour depuis une semaine. La vie est vraiment belle.
Ah, j'en doute pas une seconde. Comment t'es venue l'idée de gravir le Mont Everest à un si jeune âge? Parce que souvent, là, on a une crise de la quarantaine, on a une crise de la cinquantaine, on cherche, on dit « qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire encore aux filles? » Ah, tiens, je vais aller gravir l'Everest. Mais toi, 23 ans, un si jeune âge, d'ailleurs, t'es le premier Québécois à l'avoir fait. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'Everest?
Oui, mais moi, ça fait plusieurs années que je grimpe des montagnes de toutes sortes d'altitudes. Puis j'ai vraiment découvert une passion derrière ça, de me retrouver dans la nature puis de me dépasser. Donc, il y a 4 ans, m'est venue l'idée que peut-être un jour, j'aimerais ça gravir l'Everest. Puis depuis ce temps-là, petit à petit, j'ai monté des montagnes de plus en plus hautes. J'ai voyagé un petit peu partout à travers le monde. Donc, de là est venue l'idée de monter l'Everest. Puis tu sais, tu prends confiance plus que tu montes des montagnes d'haute altitude, un petit peu plus hautes, ça va bien. Ben là, tu sais, tu prends confiance. Puis un jour, t'es rendu à gravir l'Everest. J'étais rendu là dans mon parcours. Donc, ça vient un peu de là. Il n'y a pas eu comme une switch qui s'est faite. Ça a vraiment été graduel. J'y ai cru, puis c'est finalement arrivé.
Puis comment tu as su que tu étais le premier jeune Québécois à cet âge-là, à 23 ans, à gravir l'Everest? Y a-t-il un répertoire des gens qui ont gravi l'Everest?
Oui. Donc, il y a un site que toutes les ascensions en Himalaya qui sont enregistrées, ça s'appelle Himalayan Database. Donc, tu peux voir toutes les statistiques selon les pays de où tu viens, tous les records à travers le monde. Donc, c'est C'est dû à ça que je me suis référé.
OK. Donc, tu as déjà fait quelques montagnes. Tu as commencé à l'âge de 19 ans à t'entraîner. C'est-tu un entraînement qui est rigoureux quand on veut être un alpiniste professionnel? Parce que là, on peut dire maintenant que tu es un alpiniste professionnel.
Oui. Ben, tu sais, il y a beaucoup de préparation mentale. Tu sais, je pense que l'alpinisme à haute altitude, il y a beaucoup de gestion de risque à faire. Il faut que tu te mettes dans des situations assez difficiles. Pour être prêt à gravir l'Everest, là, tu sais, gravir l'Everest, oui, c'est très, très, très physique, tu sais, c'est très demandant physiquement, mais moi, je vois plus ça comme une grosse préparation mentale à faire, tu sais, faut que tu sois prêt à voir ce que tu vas voir sur l'Everest, c'est horrible. Les trucs que tu vois quand que tu grimpes cette montagne-là, tu sais, tu frôles la mort à plusieurs reprises, donc tu dois vraiment être capable de te mettre dans ta bulle puis être focus, de rester focus sur ton objectif, tu sais, peu importe ce qui se passe. Puis il y a 4 ans, jamais j'aurais été capable de voir puis de faire face à ce genre de trucs-là, tu sais. Donc, tu dois te mettre dans des situations extrêmes, dans des météos extrêmes, dans de la fatigue extrême plusieurs fois pour être capable d'être quand même à l'aise puis de continuer à avancer malgré tout, là.
Okay. Puis, y a-tu des fois où tu t'es demandé depuis 4 ans, là t'as gravi l'Everest, mais y a-tu des fois où tu t'es demandé, coudonc, qu'est-ce que je fais ici?
Oui, à plusieurs reprises, tu sais, puis je pense que c'est là que tu grandis en tant que personne, puis en tant qu'humain, tu sais, c'est là que c'est quand que t'es hors de ta zone de confort que tu repousses tes limites, puis que tu vois à quel point t'es capable d'aller loin, tu sais. Donc, oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Tu sais, moi, ma place préférée pour m'entraîner, c'était au Mont Washington, la plus haute montagne du nord-est des États-Unis. Puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette montagne-là, c'est qu'il y a la météo la plus extrême au monde. Tu sais, tous les vents les plus forts au monde ont été enregistrés là en hiver. Donc, moi, tu sais, c'était la place parfaite pour m'entraîner puis sortir de ma zone de confort, même si c'est pas la plus haute montagne au monde. Ben, les conditions extrêmes que tu y fais face, ça prépare, pour un objectif, comme l'Everest.
Tes parents étaient-tu parfaitement d'accord avec tes choix de vie?
Ouais, je pense que t'sais, mes parents, ils veulent que je sois heureux, ils veulent que je réalise mes rêves. Donc, t'sais, même si c'est pas le rêve le plus confortable, en tant que parent, je pense qu'honnêtement, il était ouvert à ça, t'sais, puis je suis vraiment reconnaissant pour ça aussi, t'sais, parce que je le sais que je ne leur ai pas donné la vie facile les 2 derniers mois.
Ouais, c'est sûr et certain que quand on a des enfants, on a l'impression, on a une certaine responsabilité à l'égard de ces enfants-là, même s'ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Là, t'sais, y a des gens qui nous écoutent qui sont très âgés, des grands-mamans qui s'inquiètent pour leurs petits-enfants parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un devoir de sécurité à l'égard de ça. Fait que j'ose pas imaginer ce que tes parents, les étapes mentale par laquelle tes parents ont dû passer quand tu leur as dit « Je m'en vais faire l'Everest, puis juste vous dire que ça se peut que je vois des affaires que je veux pas voir, c'est-à-dire des gens qui ont pas réussi à monter au sommet puis qui sont encore pognés là, puis qui seront encore là dans 500 ans. » Là. Ça doit être inquiétant
ouais.
pour un père ou pour une mère, tu sais. Puis, mais félicitations, tu l'as fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu rêvais de faire quand tu étais bébé, ça, de gravir des montagnes? T'étais-tu aventurier dans l'âme?
Non, honnêtement, comme que j'ai dit plus tôt dans l'entrevue, tout a commencé vers l'âge de 19 ans où que je suis parti en Gaspésie avec mes chums. Puis c'est là que j'ai découvert l'univers des montagnes. Je suis allé dans les Chic-Chocs en Gaspésie.
Magnifique.
C'est ça, c'est là que j'ai découvert ma passion pour les montagnes. J'ai gravi comme 2 montagnes là-bas. Puis je suis revenu de là, puis je me suis dit, aïe, aïe. Je veux faire ça de ma vie, tu sais, c'est ça qui me drive, puis c'est là que je me sens le mieux, tu sais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai comme eu le déclic, et comme je voulais gravir les plus hautes montagnes au monde.
Ouais. T'avais 19 ans à l'époque, là, maintenant t'as 23 ans, t'es pas milliardaire, là. Je connais pas tes parents, je sais pas quel genre de travail ils font, mais je veux dire, il faut que ça soit financé, ce type de voyage-là. Est-ce que c'est complexe de financer l'ascension vers l'Everest? Parce qu'on me dit que c'est autour de 50 à 100 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent, là.
Ouais, ben moi, ça a été un des trucs qui a été. Ça a été un challenge aussi, tu sais, l'aspect financier là, de tout ça. Puis ça a fait partie de la montagne à gravir, tu sais. Tu sais, moi, je travaille des réseaux sociaux, donc je suis capable d'aller me chercher des partenaires, des sponsors qui sont capables de m'aider à financer ce genre de projet-là. Ça a été 100% financé par moi et par mes commanditaires.
OK. Donc, depuis l'âge de 19 ans, tu es capable de financer tes voyages, tes expéditions avec Internet. Parce qu'on peut te suivre, là, Xavier Ladouceur, sur Instagram sans problème, puis on a accès à tout ton travail. C'est vraiment, tout passe, ton financement, tout ça passe par Internet.
Oui, exactement.
OK. Puis, est-ce que ça ressemble à ça, les coûts? Es-tu entre 50 000 et 100 000 pour gravir l'Everest?
Oui, puis 50 000, c'est le baseline, là, t'sais, donc ça, c'est 100. Si tu veux un Sherpa avec, dans le fond, le Sherpa, c'est eux qui vont t'aider à gravir l'Everest. C'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas, c'est le terme. Des travailleurs, là, si on veut. Donc, 50 000, c'est le baseline. Mais ça peut aller jusqu'à 1 million, là, si tu peux ajouter plein de trucs à ça. Donc, ouais, gravir l'Everest, ça a un énorme, énorme prix financier, là.
Est-ce que c'était la première fois que tu avais un Sherpa pour te travailler, pour réussir à monter en haut?
Ouais. Puis moi, puisque je tournais un documentaire avec tout ça, j'avais deux Sherpas. Donc j'avais un Sherpa qui était là pour m'aider, puis j'avais un Sherpa qui était là seulement pour me filmer. C'est ça, j'avais deux Sherpas. Donc tu sais, ça augmente le coût quand t'as quelqu'un de plus avec toi. J'avais aussi les permis de drone. Ça a été, c'est ça, il y a eu beaucoup d'extras pour ce projet-là.
Ça te prend un permis de drone pour gravir l'Everest. C'est incroyable.
Ouais, t'as pas le choix parce que sinon, tu sais, il y aurait des drones partout, puis ça serait l'enfer. Puis, tu sais, les prix sont aussi exorbitants, là, tu sais, parce que sinon, tout le monde aurait des drones, puis ça serait n'importe quoi dans les airs, puis ça pourrait créer des accidents et tout. Donc, ouais, t'as besoin d'un permis de drone du gouvernement du Népal pour pouvoir graver le reste.
Gravir
Oh.
l'Everest pour toi, pour moi, pour les gens qui nous écoutent, pour tous ceux qui l'ont fait, c'est vraiment exceptionnel. Faut être bâti différemment, on va se le dire, là. Tu as réussi à le faire, puis je te félicite. Les Sherpas, eux autres, c'est un lundi matin. Est-ce qu'ils sont bâtis différemment, ces gens-là? Parce qu'il y en a qui ça fait plusieurs fois qu'ils montent puis qu'ils descendent, là.
Ouais, tu sais, ben quand que tu t'exposes à l'altitude, ton corps s'acclimate. Donc eux, dans le fond, souvent c'est qu'ils vivent dans les villages proches de l'Everest. Donc eux, ils vivent à 3, 4, même des fois 5 000 mètres, là, tu sais. Ils sont là presque à l'année. Donc c'est plus le niveau d'acclimatation pour eux est vraiment plus facile. Puis aussi plus que tu en fais. Plus que tu t'exposes à l'altitude extrême, plus que ton corps s'adapte rapidement. Puis, tu sais, les effets sont plus rapides. Pour eux, c'est sûr que c'est plus. Tu sais, ça reste très difficile pour eux, là. Tu sais, après une expédition de 2 mois, ils sont claqués, puis ils ont besoin de repos comme tout le monde, là. Tu sais, c'est pas des robots non plus. Mais, tu sais, c'est sûr que l'adaptation pour eux est plus facile, surtout quand, tu sais, c'est ta job, puis tu fais ça depuis 20 ans, là.
Fait que t'es parti avec deux gars que tu connaissais pas qui allaient t'aider à gravir le mont Everest tout en t'aidant à filmer ton documentaire.
Oui, exact. Par contre, mon Sherpa caméraman, je le connaissais. J'avais fait déjà plusieurs expéditions avec lui. C'est ma troisième fois au Népal. Donc, les 3 fois, ça a été avec lui. La première fois que je suis allé au Népal, ça a été le Sherpa qui m'a été assigné. Puis depuis ce temps-là, on ne s'est jamais lâché. Il s'appelle Purna Lobchen. Donc, c'est mon meilleur ami là-bas. On est toujours ensemble. Donc, pour moi, c'était sûr que j'allais gravir l'Everest avec lui. C'est un rêve qu'on s'est parlé la première fois qu'on s'est vu, tu sais, puis on l'a finalement réalisé, donc c'est vraiment, vraiment hot.
Puis les Sherpas, quand ils t'accompagnent, c'est quoi leur tâche? J'imagine qu'ils t'aident dans ton quotidien avec l'équipement, puis si jamais tu as une problématique, ils sont là pour t'aider. C'est quoi leur tâche concrètement? Ils passent 2 mois quand même avec toi, là?
Ouais, ben dans le fond, les Sherpas, eux, ils arrivent un mois avant nous pour set up le camp de base. Donc, tu sais, quand tu arrives au camp de base, c'est pas un terrain plat, là, tu sais. Donc, eux autres, ils doivent tout prendre le terrain plat. C'est eux qui vont installer ta tente. C'est eux qui vont, tu sais, prendre soin de toi. C'est eux qui vont aller dropper l'équipement plus lourd dans les camps les plus hauts. Ils ne peuvent pas faire ça d'un coup. Donc, tu sais, ils doivent faire beaucoup de rotations, eux, aller porter des bouteilles d'oxygène, la nourriture dans les camps plus hauts, puis redescendre plus bas. Puis quand que c'est l'heure d'aller vers le sommet, ben là, tu sais, ils vont être là pour toi. Si tu es malade ou quoi, ben ils vont prendre soin de toi. Ils vont aussi transporter ton équipement plus lourd, tu sais, mettons. Ton sleeping bag, des batteries externes, tout l'équipement que tu n'as pas besoin de toi traîner sur toi pendant ton ascension, puis que tu peux avoir de besoin, ben eux, ils vont le traîner.
Comment ça fonctionne, les repas, traîner de l'eau, c'est quand même assez lourd. Fait que j'imagine que vous prenez la neige qui est disponible sur place, là.
Oui, exact. Donc, c'est pendant 2 mois, tu bois de l'eau des glaciers. Donc, on fond de la neige en grosse quantité à chaque jour. Puis, tu sais, en altitude, l'hydratation est très, très, très importante. Sans ça, tu peux pas continuer à monter. C'est l'aspect numéro un qui va faire si tu vas être capable d'être acclimaté ou pas. Donc, tu dois boire extrêmement beaucoup d'eau, 4 à 5 litres par jour. Donc, ils font constamment fondre la neige pour qu'on soit capable de s'hydrater.
Puis les repas, vous fonctionnez comment pour la période des repas? J'imagine que c'est pas tout le temps des rushing packs, là.
Ouais, ben pour les repas, dans le fond, quand tu es au camp de base, la nourriture, elle se fait fly par hélicoptère. Donc, à chaque jour, on a de la nourriture fraîche. Mais pour ce qui est dans les camps les plus hauts, tu sais, on mange des bars, des ramen, tu sais, c'est pas mal ça, là. Puis tu manges pas vraiment beaucoup en haut de 6000 mètres. Donc c'est ça, tu sais, moi j'ai perdu 36 livres au total pendant mon expédition. Donc tu sais, presque une livre par jour. Donc la nourriture est quand même très limitée. Avec l'altitude aussi, on perd l'appétit. Tu manges qu'est-ce qu'il y a, mais c'est sûr que c'est pas ici, comme ici au Québec, là.
OK. Puis au day-to-day, quand tu gravis l'Everest, est-ce que vous montez sur des périodes de 12 heures, c'est des périodes de 6 heures? Ça fonctionne comment? Quand tu te lèves le matin puis tu as un objectif à atteindre de quelques kilomètres, comment ça fonctionne?
Oui, il y a beaucoup de périodes de repos, là, donc je vais te faire un wrap-up de tout ça. T'sais, la marche pour aller au camp de base, seulement la marche pour aller au camp de base prend entre 10 et 14 jours. Donc, une fois arrivé au camp de base, là, il faut que tu passes quelques jours au camp de base pour t'acclimater à l'altitude parce que tu ne peux pas monter trop haut, trop vite. T'sais. Donc, après, une fois arrivé au camp de base, tu dois commencer le processus de rotation. Donc, le processus de rotation, c'est de monter plus haut pour produire plus de globules rouges, pour redescendre plus bas, te reposer, puis t'aider à l'acclimatation. Ce processus-là, c'est juste pour aider à l'acclimatation. Lorsque tu montes plus haut, ton corps produit plus de globules rouges, puis c'est ce qui fait que tu vas être capable de mieux t'acclimater. Le truc, c'est que si tu restes trop haut, ton corps n'est pas capable de récupérer. Donc, tu ne peux pas rester des jours et des semaines en haut de 6000 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on fait le processus de rotation de monter plus haut et descendre plus bas. Donc, environ une semaine après être arrivé au camp de base, on commence notre première rotation qui est sur le Lobuche Peak. Donc, tu sais, il y a plein de montagnes proches de l'Everest. Il n'y a pas juste l'Everest, bien évidemment. La chaîne himalayenne, c'est immense. Puis aussi, c'est que la partie la plus dangereuse sur l'Everest est entre le camp de base et le camp 1. Ça s'appelle le Khumbu Icefall. C'est un glacier constamment en mouvement, qui a d'énormes crevasses et on doit passer sur des échelles avec nos crampons ou qu'il y a aussi il y a des gros blocs de glace qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Donc, on essaye d'éviter de faire nos rotations sur l'Everest parce que c'est trop dangereux. Donc, à la place, on va monter d'autres montagnes de 6-7 000 mètres proche pour éviter le risque du Khumbu Icefall puis s'acclimater à l'altitude. Donc, on a fait une première rotation sur le Lobuche Peak. Puis par la suite, on revient au camp de base. Tu sais, c'est beaucoup de. C'est très demandant pour un corps faire une rotation. Donc, ça prend peut-être une semaine t'en remettre. Puis par la suite, ben là, c'est là qu'on a commencé nos rotations sur l'Everest. On a fait une rotation jusqu'au camp 2. Ça a pris environ une semaine. On est revenu jusqu'au camp de base. Après ça, on vient au camp de base pour s'acclimater pendant environ une semaine. Puis là, c'est par la suite que là, tu fais ton ascension finale vers le sommet. Donc là, tu montes jusqu'au camp 1, tu passes une nuit, tu vas au camp 2, tu passes deux nuits. Après ça, camp 3, une nuit, camp 4, une nuit. Après ça, du camp 4 jusqu'au sommet pour revenir au camp 4. Juste le camp 4 jusqu'au sommet, c'est environ 20. Ben moi, ça m'a pris 25 heures dû au trafic et tout le monde sur l'Everest. Donc,
il n'y a pas juste du trafic à Montréal et à Québec, il y a du trafic sur l'Everest aussi.
Exact, exact. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est le trafic, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite période dans l'année où tu peux monter l'Everest. Ça ne se monte pas à l'année. Il y a environ juste deux semaines que ça se fait. Cette année, le truc est que il y a deux versants pour monter l'Everest. Puis cette année, il y a le versant nord et le versant sud. Le versant nord est aux côtés de la Chine et le versant sud aux côtés du Népal. Donc, cette année, le gouvernement de la Chine a décidé de fermer le versant de la Chine. Donc, tout le monde s'est ramassé sur le même versant. Puis ça a créé vraiment beaucoup, beaucoup de trafic sur 3 jours. Là. Moi, j'ai monté le 21 et le 20, ça a été la journée record où j'ai eu le plus de monde. Donc, tous les gens descendaient de la veille. Puis moi, je montais. Puis il y a une ligne pour monter sur l'Everest, une corde, là, tu sais. Donc, quand ça se croise, ça devient compliqué dans les sections techniques. Donc, ça crée vraiment beaucoup, beaucoup de trafic, là, tu sais.
Y a-tu de la friction entre ceux qui font l'ascension puis ceux qui descendent?
Oui, vraiment.
Ah ouais?
Tu sais, les gens, ils perdent un peu le... Tu sais, à cette altitude-là, tu perds la tête un petit peu, là, tu sais. Donc, ça fait que, tu sais, les gens, ils... T'sais, tout le monde, leur vie en danger, là, t'sais, donc ça fait que des fois, il y a des gens qui perdent les notions puis qui pognent les nerfs, là, t'sais, mais t'sais, dans ce temps-là, il faut vraiment rester focus parce que tu peux rien contrôler, t'sais.
Ouais. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir ce soir de passer la soirée avec Xavier Ladouceur, qui est le plus jeune Québécois à avoir gravi l'Everest. Il a aujourd'hui 23 ans. Et dans le podcast de Marceau Soir, dans la première partie, il va être aussi dans la deuxième partie. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Tu veux-tu entendre ce que les gens avaient à dire une journée avant que l'interdiction de la cigarette soit mise en vigueur par le gouvernement du Québec?
S'ils nous empêchent de fumer, ben c'est quoi qu'on va faire? Ou qu'on va relaxer?
On va pas le faire à la maison. Ou dans des bars clandestins qui vont ouvrir bientôt au Québec.
Ça fait 60 ans que je fume plus que tous pour plus qu'un autre.
Je me mets de même, là, à pas fumer n'importe où.
Notre génération est privilégiée. On a survécu à deux apocalypses, nous autres. Au fait qu'on a interdit aux gens de fumer dans les restaurants, dans les bars et ainsi de suite. Puis après ça, on a survécu à la légalisation de la marijuana. Tout le monde va être gelé dans la rue. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Mais dis là, le pot, ça va sentir le pot partout. Là. Et on va aller sur les plaines, ça va sentir le pot. Man, depuis que les plaines existent, ça sent le pot de ces plaines, légales ou pas.
Le Pit Stop de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h55.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Bell, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et ChapeauBell.com.
Ce segment d'émission est présenté par Faneuf Équipement Agricole. Jusqu'au 20 juin, à l'achat de produits Steel sélectionnés, obtenez une batterie gratuite d'une valeur pouvant atteindre 499,99 $.
Envie d'un week-end gourmand, festif et rempli de découvertes? Du 20 au 23 août, les Fêtes gourmandes de Neuville vous invitent au festival le plus gourmand de l'été. Au menu, plus de 60 exposants, dégustations, cuisine de rue, ateliers, démonstrations culinaires, combats de chefs et spectacles chaque soir avec Classe Moyenne, Les Charmants Salauds et Best Of. Cette semaine, restez à l'écoute de Boulevard pour remporter votre accès double pour les 4 jours de festival. Passez goûter l'été aux Fêtes gourmandes de Neuville. Une invitation de Boulevard 102.1.
Pour Amelia, pour une enfance sans cancer. Uniprix s'associe à la Fondation Charles Bruno pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique. Passez dans une succursale Uniprix et faites un don.
Bonjour, ici Carole. Comme je ne sais plus comment vous le dire, je vais vous faire un dessin. Une image vaut 1000 mots qui disent. Un gros feu de rebut avec un bidon d'essence. Là-dessus, tiens, un beau Go-X. Un feu de camp pas éteint, qu'un toi, on le barre. Un mégot de cigarette dans le bois, tu le vois? Ben, un gros X là-dessus aussi.
Excuse, Carole, justement, on le voit pas parce qu'on est à la radio.
T'es-tu sérieux, là? Regarde, c'est simple. Évitons les feux évitables. J'espère que c'est clair.
Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Saviez-vous que Promutuelle Assurance offre des protections auto adaptées à votre...
Oh, pas juste ça, là!
Pas juste ça!
Ben, ils assurent aussi ma moto puis ma roulotte pour le camping.
Ah, ben oui, ils assurent tout ça.
Mais hein, puis ils conseillent les bonnes couvertures, là.
Ah, ben pratique pour les nuits fraîches en camping.
Tellement! En tout cas, je vous les recommande.
Ben, go! On fait ça ensemble. Pour votre assurance auto, puis moto, puis VR, choisissez-vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Sont bons.
Des conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
On a créé des autos qui se conduisent toutes seules, mais qui continuent de rouiller. Heureusement qu'au Québec, en près de 50 ans, Antirouille Métropolitain a effectué plus de 4 millions de traitements dans ses succursales, toutes recommandées par le CA Québec. Dans cette entreprise familiale de chez nous, des centaines d'experts appliquent une solution adaptée à notre climat. Antirouille Métropolitain protège ce qui vous tient à cœur.
Rendez-vous sur le boulevard Amel à Québec, Guillaume Couture à Lévis ou sur antirouille.com. Grouille avant que ça rouille.
Un beau gazon, ça commence par un plan fait pour vous. Chez Weedman Entretien de pelouse, chaque programme est personnalisé pour votre terrain.
Pour une pelouse dense, verte et en santé.
Et pour les nouveaux clients, premier service à 50 % de rabais. Profitez-en dès maintenant.
Chez Davie, chaque soudure fait partie de quelque chose de monumental. On recrute plus de 100 soudeurs monteurs à Lévis dès maintenant. Jusqu'à 37,11 $ et heures supplémentaires payées en temps double. Applique maintenant au davy.ca. On t'attend.
Savourez les nouveautés de l'été dans vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec. Avec le bol au poulet style katsu, la salade asiatique saté et le fajitas d'été au poulet.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Puis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Xavier Ladouceur est notre invité de ce soir. Il a 23 ans. C'est le plus jeune alpiniste à avoir, le plus jeune alpiniste québécois à avoir gravi l'Everest. C'est un plaisir de te parler ce soir. Que du respect pour un jeune homme de ton âge d'avoir réalisé cet exploit-là qui n'est pas donné à tout le monde, on va se le dire.
Merci, merci. Vraiment content d'être de retour après autant de temps à l'extérieur, hors de ma zone de confort. Ouais. Donc.
Un petit peu avant la pause, tantôt, on parlait de la patience des gens là, quand ils sont sur l'Everest. Comme tu l'as dit, c'est leur vie qui est en jeu. Donc, tu comprends que... Puis en plus, le manque d'air, là, le manque d'oxygène, on est dans des conditions un peu différentes de quand on est, exemple, à Montréal ou à Québec. Toi, de ton côté, Xavier, as-tu eu des difficultés psychologiques, des difficultés physiques en faisant ton ascension sur le mont Everest?
Ouais, j'en ai eu plusieurs, mais bien honnêtement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sortent d'une expédition de l'Everest avec des traumatismes ou, tu sais, ils n'étaient pas prêts mentalement à voir des trucs qui se passent sur l'Everest. Donc, overall, ça l'a super bien été, mais c'est sûr que il y a eu des incontrôlables qui ont fait que ça a rendu la chose plus difficile, comme le trafic. Ça m'a pris 10 heures de plus que prévu seulement pour le Summit Push. J'ai trois orteils qui ont gelé, dans le fond. Là. On appelle ça... des engelures grade 1. Donc, rien de trop grave, c'est juste que c'est engourdi depuis puis c'est jamais revenu. Mais il y en a qui perdent leur orteil ou leur pied ou leur main. Donc, honnêtement, overall, c'est pour ça que je dis que ça a super bien été. Puis je suis content de revenir avec tous mes membres.
Ouais. Puis bon, quand tu dis au niveau psychologique que tu as eu certaines pensées, puis au niveau physique, tu as eu des problématiques avec tes orteils, puis tu as vu des choses. Parle-moi des choses que tu as vues sur l'Everest que tu savais que tu allais voir, puis qui sont extrêmement difficiles à voir.
Ouais, ben tu sais, il y a eu des journées que tu sais j'ai perdu des gens que je connaissais. Il y a une journée que j'ai passée quasiment complète avec un des Sherpas de là-bas. Puis, tu sais, deux jours après, j'ai appris son décès. Aussi, tu sais, pendant...
Il est décédé de quoi, le Sherpa?
Il est tombé. Donc, tu sais, t'as pas le droit à l'erreur, là. Tu dois être attaché vraiment partout parce que t'as pas de place. En haut du camp 2, dans le fond, il y a pas vraiment de place où que c'est plat. Donc, tu dois être super concentré puis tu dois toujours être attaché parce que une petite erreur, malheureusement, te coûte la vie. Puis ça, c'en est la preuve, tu sais. Mais tu sais, sinon, j'ai vu plein de trucs, tu sais. J'ai vu des gens mourir devant moi. J'ai vu des gens se faire escorter par hélicoptère devant moi. J'ai vu du sang. J'ai vu des gens crier. J'ai vu des gens en panique. Donc, tu sais, c'est tous des trucs que mon cerveau était prêt à faire face. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en sors bien, sans traumatisme. Mais sur le coup, c'est sûr qu'il faut que tu restes concentré. Puis, je comprends pourquoi des gens peuvent sortir de l'Everest avec certains traumatismes parce que c'est même si ça a été mon rêve, ça a été un cauchemar en même temps. T'sais.
Est-ce que tu vois des morts?
Ouais. Il y a des morts sur le dernier stretch avant le sommet, ça s'appelle le Hillary Step. Ça se situe à 8700 mètres d'altitude. Puis il y a des morts là, sur cette place-là. Cette année, il y en avait seulement un la journée où je suis allé. Ce mort-là, il est là depuis 2021. Quand tu montes l'Everest, tu dois signer des papiers si tu veux te faire rapatrier ou pas, selon la famille aussi. Donc, c'est cette personne-là, dans le fond, c'est sa famille ne voulait pas payer les coûts pour descendre le corps. Il y a eu 350 morts environ sur l'Everest. Il parle qu'il y a encore environ 200 personnes là, qui sont encore là ou qui n'ont jamais été retrouvées là, sur la montagne.
C'est incroyable. Puis ça, ben, veux pas, ça te trotte dans la tête. Là. Tu te dis, OK, là, lui, il va rester là pour un bon bout. Là. Quand t'es mort sur l'Everest, ben souvent, ton corps, s'il n'est pas rapatrié, il va rester là jusqu'à la nuit des temps. Là.
Exactement, ben oui. Puis à vue d'œil aussi, là, cette année, il y en avait seulement un qu'on pouvait voir parce qu'il est gelé dans la glace. Mais quand il dégèle, malheureusement, il est lancé en bas, soit du côté de la Chine ou du côté du Népal. Sinon il lance dans les crevasses là, parce que c'est pas une belle image pour l'Everest, puis c'est très 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 payant pour le gouvernement là, c'est des pays pauvres là-bas, donc ils essayent de cacher les morts le plus possible. Ouais. Donc quand il dégèle, soit il lance en bas ou il lance dans les crevasses. Puis aussi, tu sais, c'est tellement difficile de descendre les corps à cette altitude-là. C'est difficile de survivre soi-même. Donc imagine descendre quelqu'un de 200 livres, là, tu sais, c'est vraiment une tâche très difficile.
Ah, ça doit pas être évident, effectivement. Est-ce que tu as dû faire le deuil de certains de ton matériel technique parce que tu réalisais un documentaire quand tu grimpais l'Everest, Xavier Ladouceur? Tu as dû faire deuil de certains appareils, j'imagine, à la froideur?
Non, honnêtement, pour être bien honnête, tout a survécu.
Ah ouais.
C'est sûr que les batteries, c'est pas c'est à ce froid-là, c'est très difficile de garder les batteries en vie. Là, donc, tu dois être intelligent avec ton équipement. Là, tu dois mettre tout dans les poches intérieures pour garder au chaud. Puis tu peux pas sortir ton téléphone trop parce qu'il va geler en 2 secondes. Puis c'est tout l'équipement que tu as besoin pour des moments clés de l'expédition. Donc, si tu es intelligent, honnêtement, tu peux t'en sortir, mais ça rend la tâche vraiment compliquée là, avec ce froid extrême.
C'est quoi les températures de bas en haut de l'Everest là, que tu as dû côtoyer? Parce qu'en bas, il fait chaud, tu es au Népal.
Ouais. Fait qu'en bas, c'est comme ici, même plus chaud qu'ici, là, à Katmandou, la ville où qu'on est. Au niveau de la mer, il doit faire 30-40 degrés, là, tu sais, mais dès que tu commences à Lukla, Lukla, c'est le premier petit village que tu... dans le fond, l'aéroport où que tu atterris pour commencer ta marche vers le camp de base de l'Everest. Déjà là, il fait plus froid parce que tu es à presque 3000 mètres d'altitude. Donc, tu sais, là, qui fait peut-être 10, 15. Mais plus que tu montes de village en village, plus qu'il fait froid. Jusqu'au sommet, c'est des températures qui vont jusqu'à moins 40, moins 50. Mais le truc en altitude, c'est que tu n'as pas de circulation qui va dans tes extrémités. Donc, le froid ressenti est beaucoup plus extrême que ce qu'il y a sur qu'est-ce qui est indiqué sur la météo. Donc, ça rend la tâche très, très, très compliquée. Puis c'est pour ça que les gens ils font des enjeux au niveau des doigts, des mains, des pieds, des orteils. C'est parce qu'il n'y a pas de circulation qui se passe. Le corps humain est intelligent. Il va tout mettre la pression et le sang au niveau des organes, ce qui est le plus important pour la survie. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de sang qui se ramasse dans les extrémités, puis ça rend la tâche encore plus difficile, parce que déjà là, un moins 30, moins 40, c'est déjà vraiment très froid, tu sais. Mais quand tu rajoutes l'altitude par-dessus ça, ça devient vraiment, vraiment dangereux pour les extrémités.
Puis l'oxygène, plus on monte, moins il y en a. C'est quoi le processus que vous devez suivre pour ce qui est des bonbonnes d'oxygène?
Ouais, dans le fond, à partir du camp 3, juste après le camp 2, normalement, les gens, c'est là qui se pluguent à l'oxygène. Ça se situe environ à 6700, 6800 mètres, juste avant le Lhotse Face, qu'est-ce que ça s'appelle, avant que ça commence à être trafic. Tout le monde se plug à l'oxygène. Mais même là, il faut que tu sois intelligent avec ton régulateur d'oxygène parce que tu n'en as pas à l'infini. Sans ça, le sommeil est impossible. Une fois que tu te plugues à l'oxygène, ton corps devient dépendant. Donc, tu ne peux pas t'enlever à l'oxygène jusqu'à temps que tu finisses ton sommet puis que tu redescendes à l'altitude ou que tu t'es mis de l'oxygène. C'est un élément super important à gauger. T'sais, quand tu dors, c'est sûr que tu te mets, que tu as des niveaux d'oxygène que tu peux te mettre, donc ton régulateur 0.5, 1 litre à l'heure, 2 litres à l'heure, 3 litres, 4 litres, plus que tu te montes haut, plus que tu as besoin d'oxygène. Mais c'est sûr que nous, on en a manqué à cause du trafic, à cause que ça a été plus long que prévu. On a passé 2 jours dans la zone de la mort, puis dans la zone de la mort, si tu n'as pas d'oxygène, tu meurs. À cause du trafic, on a dû passer une nuit de plus dans la zone de la mort où on a manqué d'oxygène dans la deuxième nuit. Puis mon Sherpa a réussi à me trouver une bouteille d'oxygène de mon équipe. C'est un élément de plus à prendre compte. Puis sans oxygène, tu sais, c'est ton temps illimité. Donc, c'est super important de bien gauger ton oxygène. Puis ça rend la tâche plus complexe. Là.
Puis entre les deux oreilles, y a-tu des moments où tu t'es dit « OK, c'est assez, je descends » ou à chaque fois tu disais « C'est pas vrai, je descends pas, je vais monter, je vais arriver jusqu'au bout »
Non, honnêtement, j'y croyais, ouais. Je savais que la préparation était faite. Du début à la fin, là, j'ai jamais douté de mes capacités ni la capacité de mon équipe. Je pense que c'est ça l'a fait la force de tout ça, puis c'est une des raisons pourquoi on a réussi à atteindre notre objectif.
La difficulté de dormir rendue en haut, ça a été assez complexe. Là. Je pense que tu as été quoi, 48 heures là, sans manger, sans dormir. Tu devais te poser des questions dans ces moments-là, parce que déjà, pas manger alors que tu as besoin d'une bonne forme physique. Fait que la nourriture devait commencer à manquer.
Oui, mais tu sais, honnêtement, tu penses pas trop à ça. Tu es tellement sur l'adrénaline et tu es tellement entre la vie ou la mort que c'est pas des trucs à quoi tu penses quand tu es dans cette situation-là. T'sais, dans la vie de tous les jours, il peut te manquer 2-3 heures de sommeil puis tu vas le sentir puis ça va te jouer beaucoup dans la tête. Mais dans des situations comme ça où que ta vie est en danger, c'est pas trop des choses à quoi que tu penses puis que tu ressens aussi. Là.
Est-ce que tu as failli mourir d'hypothermie?
Oui. Quand je suis arrivé au camp 4 après mon sommet, on est arrivé après le coucher du soleil. Puis quand il n'y a plus de soleil dans l'Himalaya, les températures descendent à des degrés que ça fait aucun sens. Là, t'sais. Donc, j'ai eu un genre de morceau de glace qui s'est formé sur mon manteau. Puis quand je suis arrivé dans la tente, ça l'a tout fondu à cause que il fait un petit peu plus chaud dans la tente. Puis un sommet dessous, c'est ça qu'on utilise pour monter les montagnes en Himalaya. C'est pas imperméable. Donc, quand il y a de la pluie ou un morceau de glace qu'ils font, ben tu deviens tout mouillé, puis toutes tes couches intérieures deviennent mouillées. Donc, c'est ça, j'ai passé toute la nuit en hypothermie, puis mon Sherpa, il a réussi à me réchauffer avec, en faisant fondre la neige, puis j'ai bu de l'eau chaude presque toute la nuit pour essayer de me réchauffer. Donc, ouais, je suis tombé en hypothermie, mais honnêtement, ça... C'est rien de trop grave en ce moment. Je suis encore là, puis c'est ça qui est important.
Oui, exactement. C'est ça qui est important. Quand tu es arrivé en haut, qu'est-ce qu'on voit au sommet de l'Everest?
Honnêtement, tu sais, tu es sur la plus haute montagne au monde, là, donc il n'y a pas plus beau que ça. Tu as une vue 360 degrés sur les plus hautes montagnes au monde. Tu vois beaucoup de... Dans le fond, tu vois tout l'Himalaya. Donc, c'est super beau. Nous, notre journée, c'était quand même assez nuageux. Là, donc, on ne pouvait pas tout voir. Mais, tu sais, rendu en haut, j'essayais d'enjoy le plus possible, mais tu ne peux pas rester trop longtemps. Tu sais, ce que je pensais, c'était qu'il faut redescendre le plus vite possible parce que notre temps n'est pas illimité ici. Tu sais. Donc, honnêtement, c'est très, très beau, mais tu sais, on n'a pas eu la plus belle vue à cause que c'était nuageux. Là.
Puis, vous pouvez rester combien de temps au sommet de l'Everest avant de commencer à redescendre?
Je dirais que le gros maximum, c'est 30-40 minutes si la météo est belle, là, tu sais, mais ça dépend beaucoup de ton oxygène restant. Donc, nous, j'avais deux bouteilles d'extra dans mon sac à dos. Donc, ça dépend de comment il te reste d'oxygène. Nous, on avait quand même un bon jeu d'extra. Donc, on a pu se permettre de rester un petit peu plus. Mais tu ne peux pas rester trop longtemps parce que quand tu es à 8800 mètres sur le sommet de l'Everest, ton oxygène, ton régulateur, il est presque au maximum pour pouvoir survivre. Donc, tes bouteilles se vident vraiment, vraiment plus rapidement.
OK. Puis en haut, comment ça se passe? Vous vous serrez dans vos bras, toute la gang d'alpinistes en haut, vous jasez de quoi? Vous avez le temps de prendre une petite bière?
Ben non, tu sais, il y a genre une pancarte, sommet Everest, donc on prend les photos.
Ouais.
On serre nos bras, on est content, on vit plein d'émotions, tu sais. Puis par la suite, il faut déjà redescendre.
OK. Puis, OK. Est-ce que tu peux laisser quelque chose? Est-ce que tu aurais pu laisser, un drapeau? Xavier Ladouceur a réussi à faire l'Everest. Peux-tu laisser un drapeau là?
Il y a plein de gens qui laissent des trucs. Et moi, tu sais, je suis un petit peu contre ça, là, tu sais, parce que si tout le monde commence à laisser des trucs à 500 alpinistes par année, ben avec les années, ben tu sais, ça va faire plus de pollution, puis ça rend la montagne moins magique. Donc, tu sais, il y en a qui le font, il y a plein de trucs en haut, mais moi, j'ai rien laissé. Non.
Est-ce que, je t'ai pas posé cette question-là, mais au niveau des besoins, tu sais, tu as besoin de prendre ta douche, te laver, ça fonctionne comment? Parce que tu as quand même été 2 mois là.
Oui, moi, dans le fond, j'ai pas pris ma douche pour les 2 mois qui ont été là. Au camp de base, il y a des toilettes.
Ouais.
Donc, c'est un trou, des trous qui font dans la roche, dans la pierre, puis c'est là que tu fais tes besoins. Puis ce qui est dans les camps les plus hauts, tu sais, moi, j'ai pas eu à faire ça parce que, tu sais, j'ai pas trop mangé. Donc, si tu manges pas, s'il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort aussi, tu sais. Donc, au camp de base, honnêtement, tu sais, c'est pas une toilette comme à la maison, là, c'est un trou, donc il faut que tu vises. Mais pour ce qui est des camps les plus hauts, tu sais, c'est free for all. Là, tu sais, tu fais tes besoins dans un petit sac, puis pour que tu descendes tes besoins. Mais moi, j'ai pas eu besoin de faire ça.
OK. Mais quand même, 2 mois sans prendre ta douche, la première que tu as pris, là, quand tu as mis l'eau chaude, tu devais te sentir au paradis, là?
Oui, c'est toute une expérience, honnêtement. Je pense que je suis resté 30 minutes. Ouais. J'ai repris le temps perdu, là.
Dans le documentaire que tu vas probablement finir de monter dans quelques semaines, là, j'imagine qu'il n'est pas fini de monter, ce documentaire-là. C'est quoi les moments forts que tu vas nous présenter, Xavier Ladouceur?
Ben, tu sais, toute ma préparation qui a été dans les dernières années, là, tu sais, ça va pas être juste le sommet de l'Everest, mais toutes les montagnes, tous les obstacles que j'ai dû faire pour me rendre, que je me suis rendu aujourd'hui, ça a été Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acharnement au cours des dernières années. J'ai dû y croire, y croire, y croire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y croyaient autour de moi. Tu sais, quand tu dis que tu veux monter l'Everest à 23 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui y croivent. Il n'y a pas vraiment de gens qui font ça non plus. Tu sais. Donc, tous les moments forts de l'expédition, où que, tu sais, ça a bien été, mais où ça n'a pas bien été aussi. Les moments où je suis tombé malade, les moments de doute, les moments où que il y a eu des chutes de sérac proche de moi. Donc, tous les moments clés de cette expédition-là vont être mis de l'avant.
Là. Des chutes de sérac?
Oui, c'est dans le fond le Combo Icefall, comme que je parlais plus tôt dans l'entrevue. Entre le camp de base et le camp 1, ça s'appelle le Combo Icefall, puis ça, c'est un glacier constamment en mouvement où que le glacier il bouge toujours, puis des fois il y a des morceaux de glace gros comme des autos, des maisons qui tombent. Puis moi, le 5 juin, lors de ma première rotation sur l'Everest, il y a eu une chute de sérac où que ça l'a blessé gravement 4 personnes. Moi, j'étais juste un petit peu en dessous, à peut-être 100 mètres. Donc, on a tout ça en vidéo, donc ça va faire partie du documentaire aussi.
Tabarouette, ça devait te rester dans la tête quand tu voyais ça arriver, là.
Ouais, puis là, tu sais, il y avait plein d'hélicoptères qui rôdaient autour, qui essayaient de trouver les corps, donc, tu sais, c'est comme dans un film, là.
Est-ce que ce documentaire-là sera prêt dans 3 mois, dans 6 mois? Quand tu te donnes combien de temps pour le monter suite à ton ascension de l'Everest?
Ouais, J'aimerais que ça sorte d'ici septembre. Le best, ça serait fin août. Ça serait vraiment le mieux pour moi. Mais tu sais, je me mets pas trop de pression avec ça en ce moment. C'est pas ma tâche non plus, là. C'est mon caméraman qui va tout s'occuper de ça. Mais il y a d'autres projets aussi à faire avec ça. J'ai pas de date exacte, mais ça devrait être prêt d'ici la fin de l'été.
Qu'est-ce que tu retires de tout ça, de toutes les expériences que tu as eues? Parce que tu le mentionnais en début d'entrevue tantôt, depuis 19 ans, tu pratiques l'alpinisme, puis là, ben, tu as atteint le sommet. Là, il n'y a plus d'autres montagnes à faire. Là. T'as atteint la plus haute, t'as plus de buzz. C'est quoi tu retiens de tout ça?
Ouais, ben, tu sais, je retiens que, tu sais, peu importe l'objectif que tu vas te mettre, tout est possible si tu fais les bonnes actions au jour le jour, à la fin, tu sais, quand que tu accumules tout ça, au final, tu te rapproches toujours de ton objectif. Puis, tu sais, je me suis prouvé à moi-même que peu importe de où tu viens, de où que tu commences, ben, tu vas être. Si tu te donnes vraiment la chance et tu mets tous les œufs dans le même panier, tu vas être capable d'atteindre littéralement n'importe quoi dans la vie. Là.
Est-ce que tu as l'intention de faire des conférences suite à ton ascension?
Oui, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait ni monté encore, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis honnêtement, dans les prochaines années à venir, c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment cool à mon actif, surtout d'inspirer les gens puis leur partager mon message et mon expérience que j'ai vécue dans les dernières années. Je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment cool.
Tu pourrais être préparateur physique aussi là, pour ce qui est des gens qui voudraient réaliser la même chose que toi, c'est-à-dire grimper l'Everest. Tu pourrais leur montrer le chemin, le mode d'emploi pour réussir, pour le préparer.
Exact, exact.
Est-ce que tu as d'autres rêves, Xavier Ladouceur? Parce que là, tu sais, ça fait une couple d'années que tu fais de l'alpinisme. Est-ce que tu aimerais réaliser autre chose, un autre défi? Y es-tu trouvé?
Pour être bien honnête, en ce moment, j'ai pas de. Tu sais, il y a plusieurs gens qui me posent cette question-là. J'ai pas de gros projets qui s'en viennent à court terme, surtout au niveau montagne. Tu sais, c'est tellement dangereux, c'est tellement quelque chose qui tu dois mettre toute ta vie de côté, tu sais, toutes les relations, tout ce que tu fais vivre aussi aux gens proches de toi. Moi, ça a été le truc que j'ai trouvé le plus difficile, tu sais, de faire vivre tout plein d'émotions à ma copine, à ma famille, à mes amis, tu sais. Donc, pour être bien honnête, pour ce qui est des montagnes, je vais prendre un petit pas de recul à court terme, ça c'est sûr, parce que je trouve que tu as beaucoup à mettre de côté pour ce que c'est. même si c'est ce que j'aime le plus faire au monde, monter des montagnes de haute altitude. Mais là, c'est ça, là, je vais passer l'été à m'entraîner. Je me suis inscrit à un Ironman. Le 7...
On va prendre ça relax pour ce qui est des prochains mois. Je me suis inscrit à un Ironman. Bah oui, ça se glisse bien dans une discussion, ça.
Ouais, mais tu sais, par rapport à l'Everest, c'est sûr que c'est moins d'engagement, puis c'est moins extrême, si on veut, tu sais, puis ça sera pas mon premier Ironman aussi. C'est pour ça que, tu sais, j'ai pas d'énormes projets à venir, mais tu sais, je suis inscrit à Ironman, puis ça va être mon projet pour les prochains mois.
Trouves-tu qu'on se plaint pour rien, qu'on est gâtés? Suite aux étapes que tu as réalisées, là, quand tu reviens, les gens que tu as côtoyés, tu parlais des Sherpas, là, qu'on va se le dire, là, moi, ma job est assez facile comparativement à un Sherpa qui, lui, doit se taper l'Everest, puis monter en hauteur, puis avoir froid, puis transporter du matériel constamment. Trouves-tu qu'on se plaint, le ventre plein, au Canada?
Ben oui, vraiment, tu sais, puis ça... Faire des expériences comme ça fait réaliser à quel point c'est on prend la vie pour acquis. T'sais, juste avoir un repas, avoir accès à de l'eau facilement, pouvoir prendre sa douche à chaque jour, c'est tous des trucs qu'on prend pour acquis puis qu'on devrait pas. Puis au final, c'est les trucs les plus importants, hein, à être entouré des gens qu'on aime puis pouvoir vivre librement. Donc, c'est sûr que d'être de retour aussi, ça fait vraiment réaliser des trucs à quel point les gens sont stressés. Puis les gens s'en font pour rien. Là. Donc, puis tu sais, ça te permet de aussi, c'est cool d'avoir cette vue-là d'extérieur après avoir vécu quelque chose d'aussi extrême que ça. Ça te fait être plus grateful pour tout ce qui est alentour de toi. Là.
Tes chums, ils te posent-tu des questions? Est-ce que tu leur poses des questions? Puis quand vous jasez, eux autres, leurs petits problèmes au quotidien, tu dois trouver ça un peu banal?
Ouais, puis tu sais, j'ai beaucoup de... Tu sais, veux pas avec mon passé en alpiniste puis et tout, tu sais, ça fait que mon entourage devient ça aussi, tu sais. On se comprend plus. Mes amis sont comme moi aussi, là, puis ont la même vision face à ça.
OK. Pour les gens qui veulent te suivre, Xavier Ladouceur, pour en savoir plus sur toi, on te suit sur Instagram, entre autres, Xavier Ladouceur. T'es-tu sur YouTube aussi?
Oui, je suis sur YouTube, moins actif un petit peu. Mais sur Instagram, je suis actif, je poste presque à chaque jour. Ça serait vraiment la place pour me suivre sur Instagram.
Puis écoute, lorsque ton documentaire arrivera, Xavier Ladouceur, lâche-moi un petit salut, puis ça va me faire un plaisir de jaser de ce documentaire-là avec toi. Xavier Ladouceur, 23 ans, le plus jeune Québécois à avoir gravi l'Everest, c'est pas rien. Donc ça va me faire un plaisir de te recevoir dans soit le Marceau le soir ou soit Marceau le jour, là, tout dépendant où je serai rendu à ce moment-là.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à toi. On se laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se reparle demain à la même heure. Salut tout le monde, bye-bye.
Marceau le soir.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau-Belle. Des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeaubelle.com.
Envie d'un week-end gourmand, festif et rempli de découvertes? Du 20 au 23 août, les Fêtes gourmandes de Neuville vous invitent au festival le plus gourmand de l'été. Au menu, plus de 60 exposants, dégustations, cuisine de rue, ateliers, démonstrations culinaires, combats de chefs et spectacles chaque soir avec Classe moyenne, Les Charmants salauds et Best of. Cette semaine, restez à l'écoute de Boulevard pour remporter votre accès double pour les 4 jours de festival. Passez goûter l'été aux Fêtes gourmandes de Neuville. Une invitation de Boulevard 102.1.
Pour Amilia, pour une enfance sans cancer. Uniprix s'associe à la Fondation Charles Bruno pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique. Passez dans une succursale Uniprix et faites un don.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
En juin, roulez en toute sécurité avec pièces d'auto économiques. Profitez de 15% de rabais sur les disques de frein BrakeMax, les amortisseurs complets McPherson et Unity et sur l'ensemble des produits d'esthétique Silver Wax. Meilleur rapport qualité-prix-service de l'industrie. Pièceséconomique.com.
À la recherche d'un condo à louer à Sainte-Foy ou à Lévis, faites confiance aux Immeubles Roussin, une référence reconnue pour la qualité de ses complexes et son service attentionné. Condos modernes, emplacements recherchés et une équipe présente pour vous.
Visitez immeubleroussin.com.
Bon, OK. Ça filme. Salut mes besties! On se fait un unboxing! Je capote tellement les filles parce que Mercado.fm m'a envoyé plein d'affaires. Nice! Un tapis de yoga! Ici, j'ai... Oh my God! Oh my God! Un crédit voyage de 1000$ et un abonnement de 1 an dans un gym! OK, les filles, littéralement, je capote vraiment en ce moment. Merci, Mercado.
Mercado.fm. Des offres à vous faire littéralement capoter!
Gravel et Marceau dans le Pit Stop, c'est ton nouveau rendez-vous matinal du lundi au jeudi, 7h55.
Ici, on protège personne. Tout le monde y pense.
Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine.
Le 1er juillet approche et vous n'avez toujours pas trouvé de logement. Vous avez cherché partout et vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez compter sur les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation. Ils sont là pour vous accompagner dans vos recherches. Contactez-les sans tarder. Ce service est gratuit. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Profitez de l'événement cadeau du 50e chez Gréchy Scaff. Achetez une paire de lunettes complètes et recevez-en une deuxième en cadeau en plus d'une paire de solaires. Oui, deux paires en cadeau. Jusqu'au 16 août, Chantal Gravel, opticienne. Détails au gréchy-scaff.com.
Si t'écoutes la radio, puis que tu viennes te dire
« Encore une pub! »
C'est un signe que t'as faim. Va chez Valentine.
Keep on rolling, baby.
Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi. Et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonella Carini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine.
We'll be right back.
Johnny wishes he was famous. Spends his time alone in the basement with a Lennon and Cobain and a guitar and a stereo. Well, he wishes he could escape this, but it all seems so contagious. Not to be yourself and faceless in a song that has no soul. I remember feeling low and I